Aujourd'hui et pour ce premier épisode, j'ai choisi de parler de Mean Girls, alors sans plus attendre, on s'y jette.
Il y a un garçon qui me plaît bien.
Tu vas être ma cavalière pour le bal ?
Non, ça va pas la tête.
T'as déjà pensé à lui demander ce qu'elle veut ou ce qu'elle aime ?
Avoue que t'as perdu ta fleur avec lui ?
Non, tu délires, je suis certaine que si. Je vais donner des préservatifs.
Non, merci, ça va aller.
Qu'est-ce que c'est que ce charivari ?
On se reverra quand on sera plus cool, ça vaut mieux.
C'est probablement le teen movie culte que j'ai le plus regardé, c'est-à-dire 4 ou 5 fois à tout péter. On n'est pas sur un visionnage intensif non plus. Déjà, figurez-vous que mes teen movies préférés sont rarement parmi les plus connus. C'est mon côté underground, voyez. Et puis, il y a un petit côté préserver le trésor sur ce sujet-là. Trop regarder, c'est risquer d'abîmer les bons souvenirs que j'en ai ou de me lasser, donc on limite. Débuté par Mean Girls, élégamment traduit par Lolita malgré moi en français. D'ailleurs, j'ai jamais compris cette traduction. Est-ce que Lolita a été utilisée parce que 4 années plus tôt, Alizé avait remis ce mot à la mode dans la tête des Françaises et des Français ? Allez savoir. Donc débuté par Mean Girls, c'est s'assurer que les bases sont bien posées, car c'est un film qui correspond totalement à l'image qu'on se fait du teen movie, en appartenant encore plus au style du chick flick, mais ça on y reviendra dans un prochain épisode je pense. Le film il n'est pas hyper novateur en termes de construction, de perso ou de péripéties, mais il a eu un certain retentissement à sa sortie, il a influencé la pop culture par la suite, il a résolument marqué son époque et il est tellement bien ancré dans son époque que justement 18 ans plus tard ça peut faire grincer des dents sur certains points. Mais on est aussi bien là pour célébrer que bitcher, donc tout va bien. Sorti en 2004 et réalisé par Mark Waters, le mec qui a aussi piloté Freaky Friday en 2003, et Il est trop bien en 2021, deux films qui seront à minima évoqués à l'avenir, le scénario est signé Tina Fey, brillante humoriste, actrice et scénariste américaine, entre autres connue pour ses faits d'armes au Saturday Night Live et pour la série 30 Rock qu'elle a créée. Pour l'écriture du scénario, Tina Fey, elle s'est inspirée du livre de développement personnel « Queen Bees and Wannabes » de Rosaline Wiseman, dont le sous-titre est « Helping your daughter survive cliques, gossip, boyfriends and other realities of adolescence ». Ce livre s'adresse aux parents qui n'arrivent plus à suivre ce que leur fille adolescente traverse au collège ou au lycée, à comprendre où elle se situe dans la grande chaîne alimentaire de ce nouveau monde, les aider à trouver leur place en étant elles-mêmes, avoir des clés pour comprendre si elles ne souffrent pas et si elles ne font pas souffrir autrui. Et c'est clairement le sujet du film, une plongée dans les girls gangs des high school, l'intégration dans un groupe, le regard et ou le rejet des autres, les enjeux de pouvoir et de popularité qui sont bien plus omniprésents et tenaces qu'on ne peut imaginer ou s'en souvenir. Le tout par le prisme de Katie, une jeune nouvelle qui, après avoir toujours suivi l'école à la maison en Afrique, débarque pour la première fois de sa vie dans un lycée américain et va devoir composer avec les hiérarchisations sociales de ce nouvel environnement à travers son intégration dans un groupe de filles populaires, les Plastics. C'est un film qui comporte peu de personnages et la plupart sont incarnés par des actrices et acteurs inconnus. Tout repose sur le duel Katie Heron, joué par Lindsay Lohan, et son antagoniste, Regina George, interprétée par Rachel McAdams. Le film est sorti en 2004 et à l'époque c'est le sacre de Lindsay Lohan, puisque ce film est le troisième teen movie en 2 ans où elle tient le premier rôle, dont Freaky Friday du même réal que j'évoquais juste avant. Tandis que Rachel McAdams, eh bien au contraire, personne ne la connaît vraiment à ce moment-là. Mais en 2004, elle joue non seulement dans ce film, mais aussi dans N'oublie jamais, The Notebook, et ces deux films vont lui permettre de se faire une place sur le devant de la scène. C'est drôle de se rendre compte que ce film est un peu la fin de carrière de la première, qui n'a plus fait grand-chose de notable depuis, et le début de carrière de la seconde, qui, sans être une actrice incontournable de sa génération, défend plutôt bien son bout de gras jusque-là. Donc là, c'est le moment où je raconte ce qui se passe dans le film, dans un résumé qui, je l'espère, sera perçu comme succinct.
Bien, je tenais simplement à vous dire que nous accueillons une nouvelle élève aujourd'hui. Une jeune fille qui nous arrive tout droit d'Afrique. Elle s'appelle Katie. Katie Heron. Vous êtes là, Katie ?
Oui, c'est moi. Ça se prononce Katie, en fait.
Bienvenue !
Le film débute avec le premier jour de lycée, et plus généralement d'école, de Katie au North Shore High School. Tout droit sorti de l'Afrique, j'adore à quel point on n'aura pas plus de détails sur le pays. Car oui, l'Afrique est un pays à elle toute seule, c'est bien connu pour les États-Unis. On comprend immédiatement que la surdouée en maths, elle est un peu perdue dans ce nouvel endroit dont elle ignore tous les codes sociaux. On rencontre ainsi le proviseur, la seule prof qu'on connaîtra, Madame Norbury, jouée par Tina Fey, et les sitôt rencontrés, sitôt sympathisants avec Kelly, les outcasts qui vont très vite la sortir de sa solitude, Damian Lee et Janice Yan. Dont je pense que l'adjectif qui collait à leur perso sur le script était clairement homo et goth punk.
Lui, c'est Damien. Il est tellement gay que c'est ma meilleure copine.
Salut, c'est joli comme prénom.
Je m'appelle Janice.
Salut, moi c'est Kelly.
Bienvenue dans les teen movies, particulièrement des années 90-2000, où les persos sont si caricaturaux qu'ils en sont réduits à un ou deux adjectifs, ce qui, au-delà d'être réducteur, est clairement peu flatteur. Je vais essayer de creuser un peu ces stéréotypes par la suite.
Tiens, tu fais algèbre au niveau supérieur ?
Oui, j'aime bien les maths.
Quelle horreur, pourquoi ?
C'est simple, c'est le langage universel.
C'est beau ce que tu dis. Elle est d'un romantisme.
Ces deux nouveaux persos en poche, on lui fait le topo sur les plastiques. Traduit par siliconé en VF.
C'est qui les plastiques ?
Ce sont nos Altesses Royales. Si la Gazette du lycée était un magazine People, elle serait tout le temps en couverture.
Celle-là, c'est Karen Smith, la fille la plus débile de la Terre. Et la rouquine, c'est Gretchen Wieners.
Elle est pétée de thunes.
Non mais cette gonzesse-là, c'est une mine à potins. Elle est toujours au courant de ce que tout le monde fait.
C'est pour ça qu'elle a les cheveux si épais. En fait, c'est des tentacules.
Et le mal s'est réincarné dans le corps de Regina George. Ne t'arrête pas à son look de poufiasse blonde, méchante et égoïste qui te fait des grands sourires par devant et te gerbe dessus tout ce qu'elle peut dans le dos. Parce qu'en fait, elle est pire.
C'est la reine des abeilles, la star. Les deux autres ne sont que des faire-valoir.
Regina George. Je trouve même pas de mots pour t'expliquer à quel point elle est monstrueuse.
Cette dernière étant donc incarnée par Rachel McAdams. S'ensuit une petite séquence assez connue où on voit de nombreux élèves parler face cam de l'obsession qu'ils nourrissent à Regina George, au mieux en connaissant ses goûts, au pire en se contentant de chérir des moments d'interaction qu'ils ont eu avec elle, souvent de manière humiliante d'ailleurs.
Une fois, elle m'a frappée devant toute la classe. Vraiment, c'était trop top.
Voilà, les bases sont posées, nos persos ont quasi tous été introduits en moins de 10 minutes de film. Peu après, Janice partage à Kelly un dessin de la cafette avec le plan de table. Quelle table est attribuée à quel groupe ?
Il y a le coin des premières années, des glandeurs, des prépas, les champions de la gonflette.
Et certaines nominations vous hérissent les poils une fois de plus. Parce que tenez-vous bien, il y a quand même deux groupes d'Asians. Oui, les Asianers, un télo, et les Cool Asians. Également traduit par Shintok en VF.
Les Shintok toqués. Les Shintok top, les athlètes qui se la pètent.
Il y a un groupe de Unfriendly Black Hotties. Ouais, en VF, ce sont
les bombasses black qui se la tapent.
Cherchez pas. Et encore pire, les sous-titres français annoncent les beautés noires sauvages. Voilà. Et comme si ces termes racistes ne suffisaient pas en termes offensants, il y a aussi la table des anorexiques et la table des boulimiques. En VO, c'est « Girls who hit their feelings », les filles qui mangent leurs émotions ou leurs ressentis. C'est encore plus violent, je trouve. Et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de ses surprises au niveau grossophobie dans ce film.
Les victimes de la mode de l'an dernier, les à côté de la plaque, les groupies qui montrent leur admiration, les gens les plus géniaux de la Terre, et pire que tout, la table des plastiques.
Pour son premier déj au self, elle est conviée à se joindre aux Plastics, qui mettent le grappin sur elle, un peu intriguée par la new girl in town. C'est là qu'on apprend certains codes qui régissent leur petite troupe, dont le fameux
On Wednesdays we wear pink,
traduisible par le mercredi, on porte du rose. Suite à ce déjeuner, Janice, elle la pousse à intégrer ce groupe en infiltré pour pouvoir le détruire de l'intérieur, car Regina, elle est méchante. Peu après, on découvre le dernier perso qui manquait, le crush. Aaron Samuels. Le mec qui est assis juste devant elle en maths et dont elle tombe instantanément sous le charme.
À la fin de la journée, j'étais soulagée d'avoir un cours de maths. J'adore ça, je suis douée. Ça, ça me parle. Quand je fais des maths, rien ne peut me perturber.
Dis, t'aurais pas un stylo à me prêter ?
Mais là, c'était comme si je venais de me faire renverser par un bus.
Kelly, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce que j'en pense.
Oh, j'ai le coup de foudre.
Oh, pardon, j'obtiens la réponse A indice N égale N plus 5 divise 4.
Exact. Parfait.
Problème, Gretchen lui apprend que c'est l'ex de Regina et que du coup, bah, pas possible, meuf. C'est un énorme no-go.
Faut pas toucher à Aaron Samuels. C'est l'ex de Regina, tu ne peux pas lui faire ça.
Ils sont restés ensemble un an.
Il l'a quittée juste avant les vacances. Elle était complètement anéantie, la pauvre.
Je croyais qu'elle l'avait plaquée pour Shane O'Man.
Aucune importance. Ça fait partie des chasses gardées. On n'entre pas sur ce terrain, c'est comme de violer les bases mêmes du féminisme.
Quelques jours après, chez Regina, on découvre sa mère, qui est jouée par l'humoriste Amy Poehler, qui est une grande amie de Tina Fey, et qui, fun fact, a juste 7 ans de plus que Rachel McAdams. D'ailleurs, Lindsay Lohan, pour le film, elle a 18 ans. Rachel McAdams, elle a 26 ans, alors qu'elle est censée jouer une meuf du même âge. Et Amy Poehler, qui joue la mère de Rachel McAdams, elle a 33 ans. Voilà. Après, elles n'ont pas du tout le même genre de physique, mais ça me fait beaucoup rire. Donc, on fait la connaissance du personnage d'Amy Poehler, qui est clairement une mère dépassée, méga laxiste, en admiration devant sa fille, à la recherche désespérée d'être la cool mom. Chez Regina, on présente à Katie le burn book qu'elles ont créé. C'est des photos des filles du lycée accompagnées de légendes méchantes et dévalorisantes, soit colportant des mensonges, soit révélant des secrets.
Janice Yann, la lesbienne.
Qui c'est, lui?
C'est son grand copain Damien.
Ouais, il est tellement gay que c'est sa meilleure copine. Ah, ça c'est marrant. Marque-le en dessous.
Aïe, ça passait peut-être uniquement dit par Janice.
Et y a ce cahier, le musée des monstres où elles mettent plein de trucs pourris sur les filles du lycée.
Qu'est-ce qu'elles ont écrit sur moi?
Y a rien sur toi. Caddy, il faut que tu leur piques le cahier.
Je peux pas.
Débrouille-toi qu'on le fasse publier dans la gazette, que tout le monde voit à quel point c'est qu'une sale hypocrite à deux balles.
Je suis pas une voleuse.
Oh, Caddy, il y a deux sortes de gens absolument immondes. Les personnes qui font des choses dégueulasses et les personnes qui voient des pourris faire des trucs ignobles et qui les laissent faire.
À la soirée d'Halloween, et on est vraiment sur une année scolaire marquée par les fêtes de saison, ça c'est la marotte des teen movies.
Dans la vie normale, Halloween est une fête où les enfants se déguisent en monstres pour réclamer des bonbons. Dans le monde des filles, Halloween est la seule nuit de l'année où une fille peut s'habiller comme la pire des chiennes et personne n'y trouve à redire. Certaines allant jusqu'à s'exhiber en lingerie avec des attributs animaliers.
Tu es ravissante, chérie.
À la soirée d'Halloween donc, où Aaron il a invité Katie, qui croit à un rapprochement possible entre eux, Regina embrasse Aaron devant Katie, mettant cette dernière hors d'elle.
Je n'avais jamais ressenti une douleur pareille. Mon cœur cognait contre mes tempes. J'avais l'estomac retourné. Et j'avais une boule grosse comme un ballon coincée dans la gorge. Je détestais Regina, je la détestais.
Il est temps d'enclencher le plan diabolique esquissé par Janice pour la destruction des plastiques, mais surtout de Regina.
Comment on renverse un dictateur?
On lui coupe les vivres et il n'a plus de ressources. Tu vires les trois piliers fondamentaux de sa vie et elle s'effondre. À savoir un beau mec à ses pieds, un corps absolument parfait et un banc de morues prêt à la suivre jusqu'au bout du monde. Alors on va lui faire la peau à cette pétasse.
Ça consiste à remplacer sa crème de visage par de la crème pour les pieds. Ouh. Découper son débardeur dans les vestiaires, tenter d'éloigner Gretchen de Regina. Alors que ces petites idées, elles n'ont pas vraiment de conséquences directes, Katie et Janice, elles ont l'idée de proposer des barres hyper protéinées à Regina, qui cherche à perdre du poids en vue du bal de fin d'année, en lui faisant croire que ces barres de céréales, elles vont l'aider à la faire maigrir, car c'est son obsession. Et bien comme ça, elle va grossir, et elle va devenir moche, et elle va perdre tout son charisme, gnagnagnagnagnagna. Vous la sentez bien, là, la grossophobie ambiante?
Je vous demande d'applaudir bien fort les petits lutins du Père Noël qui vont danser sur Jingle Bell Rock.
Puis arrive le show de Noël du lycée où Katie, elle se retrouve à danser une chorégraphie lascive avec les plastiques sur Jingle Bell Rocks. Le tout fringué en Mère Noël sexy, la gênance est totale et la scène devenue instantanément culte. Gretchen avoue à Katie que Regina, elle trompe Aaron. Mais vu que ce dernier n'arrive pas à s'en rendre compte, Katie, elle lui balance l'info en plein cours particulier de maths, juste après qu'ils aient échangé un baiser égaré.
Non, pardon, mais on en reste là. Moi, je peux pas, c'est plus... Enfin, par rapport à Regina, elle...
Qu'est-ce que tu lui trouves?
Écoute, je sais qu'il y a des moments où elle est pas spécialement sympa.
Alors, qu'est-ce que tu lui trouves?
Et toi, tu lui trouves quoi?
Mais...
Dans chacun de nous, il y a du bon et du mauvais, ok? Et moi, je dirais qu'elle... Elle assume peut-être mieux ses mauvais côtés.
Ça recommençait. J'allais encore vomir à flot de paroles. Je ne voulais pas le dire, mais tu ne vois pas qu'elle te trompe.
Quoi?
Soufflé par la nouvelle, Aaron y décide de rompre avec Regina. Et c'est le moment du bal de fin d'année, le Spring Fling, où chacune doit se préparer à l'avance pour avoir des chances d'être élue la reine du bal. Regina va essayer sa robe pour le bal avec les Plastics et Katie, robe dans laquelle elle ne rentre plus à cause du régime de barres hyperprotéinées auquel elle s'astreint et que Katie lui fourgue en continu. Une scène avec pas mal de fat-shaming, comme vous pouvez l'entendre.
Quelqu'un peut m'aider?
Ça ferme pas. C'est peut-être la fermeture éclair.
J'ai fait tout ce que tu m'as dit, je ne mange plus que tes barres et voilà le résultat.
Non, non, tu sais, au début, ça fait toujours ça. C'est l'eau que ton corps emmagasine, alors au début tu gonfles et après tu perds 10 kilos comme ça.
Madame, vous l'auriez dans la taille au-dessus, s'il vous plaît?
Désolée, vous devriez aller voir dans les magasins grande taille, on ne va que jusqu'aux 40.
Oh. Reginald se retrouve écarté des Plastics à cause de sa prise de poids. Vraiment, c'est un délice. Katie organise une soirée chez elle dans le but de super choper Aaron, ce qui est un échec total. Hyper bourrée, elle finit par lui vomir dessus. Janice et Damian, qui fréquentent plus trop Katie ces derniers temps, passent lui dire qu'elle est devenue une Plastics à son tour et qu'ils ne veulent plus la voir. Janice, d'ailleurs, elle a gagné un prix d'art plastique en faisant une peinture de Troie. Et ben, elle lui jette au visage.
Je pouvais pas vous inviter, je devais faire semblant d'être une plastique.
C'est terminé, ça. Tu joues plus un rôle, t'es en plastoc maintenant. Dure, froide et sans cœur, t'as bien réussi.
Mais c'est toi qui as fait de moi ce que je suis maintenant. C'est toi qui t'es servi de moi pour obtenir ta petite vengeance.
Alors là, t'es gonflée parce qu'au moins, Regina et moi, on assume notre méchanceté. Toi, t'essaies de jouer la petite fille innocente, genre... Oh, avant, j'étais au fin fond de l'Afrique avec les gentils chapeaux et les jolis petits oiseaux. T'es qu'une pouffe, t'as un mauvais fond, t'es paille.
Regina, qui est venue à la soirée sans être invitée, elle se rend compte que Katie et Aaron fricotent ensemble et elle apprend que les barres amincissantes fournies par Katie sont grossissantes. Elle pète un câble une fois rentrée chez elle et elle s'inscrit elle-même, oui, dans le Burn Book pour faire croire que Katie est à l'origine de ce livre. Waouh! Parce que oui, vous vous en doutez, Regina, elle peut plus être autrice du Burn Book si elle se retrouve être dedans. C'est très malin tout ça. Livre qu'elle fournit au proviseur dès le lendemain. Reginald va continuer de semer le chaos dans le lycée en faisant traîner des photocopies du Burn Book dans les couloirs et sur les casiers, tant et si bien que ça conduit à une bagarre générale dans tout le lycée, ce qui n'est pas sans rappeler à Katie l'ambiance de la jungle. Clairement, on débouche sur une scène où tout le monde est à quatre pattes et se rugit dessus avec des bruitages sonores d'animaux sauvages. Alors Madame Norbury, elle réunit tout le monde dans le gymnase pour prendre le problème à bras-le-corps et tenter de réconcilier toutes les filles entre elles.
Ah, je vois que tout le monde, ou presque, se tire dans les pattes. Très bien, alors ce que je vous propose de faire, c'est quelques exercices qui vous permettraient d'exprimer votre colère et votre hargne d'une manière saine. On va commencer par ici.
Madame Norbury nous a amené à exposer clairement nos conflits mutuels.
Donc, c'est à cause de cet album que nous sommes là. Eh bien... je ne sais pas qui a écrit ce ramassis d'immondices, mais les filles, je vous en supplie, arrêtez de vous traiter de garces et de salopes. Sinon, faudra pas vous étonner que les garçons vous insultent à longueur de journée. Qui d'entre vous s'est déjà fait traiter de salope? Très bien, tout le monde debout.
S'ensuit un exercice de groupe où chacune doit lâcher prise et présenter ses excuses à haute voix pour ses mauvaises actions. Lors de son passage, Janice, elle dévoile la vérité de l'amitié forcée entre Katie et Regina, du moins au début, dans le but de l'anéantir.
Bon. Voilà, j'ai une amie qui est nouvelle dans le lycée et j'ai réussi à la persuader que ce serait vachement marrant de mettre la zone mais quelque chose de grave dans la vie de Regina. Donc elle a fait semblant d'être super copine avec elle et après elle venait chez moi me répéter tout ce qu'elle disait et on passait la soirée à se bidonner comme des baleines. On lui a fait bouffer des barres hyper protéinées donc elle a pris je sais pas combien de kilos. Et puis on a monté ses deux grandes copines contre elle. Oh, et aussi on lui a filé de la crème pour les pieds au lieu d'une crème hydratante. Je suis vraiment désolée, pardon, hein, je te jure, je sais pas ce que j'avais dans la tête. Ça doit sûrement venir du fait que je suis qu'une pauvre, grosse lesbienne qui est folle amoureuse de toi. Prends ça dans ta face.
En apprenant ça, Regina s'enfuit de rage et elle finit par se prendre un bus. Et on l'avait pas vu venir, celle-là. Ça a le mérite de surprendre et ne vous inquiétez pas, elle s'en sort relativement bien vu la puissance du choc. Et voilà qu'arrive la fameuse séquence méga montée de remise en question du perso principal. Katie, elle s'engueule avec ses parents, elle est punie, ses notes chutent, surtout en maths où elle excelle, elle n'a plus d'amis, elle se retrouve à manger aux toilettes. Un festival. Elle finit par se dénoncer au principal, c'est elle qui a écrit le Burn Book. Même si c'est faux, on sent que sa rédemption ne fait que commencer.
Quand on se fait mordre par un serpent, il faut extraire le venin de l'organisme. C'est ce que j'ai fait. J'ai éliminé le poison de ma vie. En commençant par Regina, qui était la preuve vivante que plus les gens vous craignent, plus ils vous couvrent de fleurs. Puis Madame Norbury, qui était la preuve vivante que certaines personnes ont vraiment la poisse.
Et elle accepte de rejoindre les mathlètes, le groupe des intellos en maths, pour une compétition de fin d'année. Le jour J, tout le monde se prépare pour le bal de printemps, tandis que Katie, elle participe au concours des mathlètes, qui tombe évidemment le même jour.
Bonsoir mesdames et messieurs, et bienvenue au tournoi interscolaire des mathlétiques de l'Illinois.
Concours que son équipe remporte grâce au point final qu'elle marque.
Et c'est là que j'ai pris conscience que descendre cette fille et me moquer d'elle n'allait pas l'empêcher de me battre.
Mesdemoiselles, veuillez trouver la limite de cette équation.
Traiter quelqu'un de gros ne vous rendra pas plus mince. Traiter quelqu'un d'idiot ne vous rendra pas plus intelligent. Et saccager la vie de Regina George ne m'avait certainement pas rendue plus heureuse. La seule chose qu'on peut faire, c'est tenter de résoudre le problème quand il se présente.
La limite ne peut exister!
Je déclare vainqueur des mathlétiques, le lycée de North Shore.
Dans la foulée, elle file au bal, où elle est consacrée, à sa plus grande surprise, reine du printemps. Elle vient sur scène, elle n'a pas préparé de speech, évidemment, donc elle finit par improviser ce qui suit.
À tous ceux qui auraient été blessés par le contenu de l'album, je vous présente mes excuses. Vous savez, c'est la première fois que je vais dans un bal étudiant. Et quand je pense à toutes celles qui auraient aimé être à ma place pour avoir ça, et quand je pense au nombre de filles qui ont pleuré à cause de ça, pourquoi tout le monde lui donne autant d'importance? Après tout, ça n'est qu'un bout de plastique. Le seul intérêt, c'est de le partager.
Après avoir partagé la couronne en plusieurs morceaux pour en donner un peu à chaque fille, et dans un esprit de communion totale, Katie fait la paix avec Janice et Damian, et puis elle finit par embrasser Aaron. Mais quelle finale !
Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Voilà, vache, j'ai essayé de faire court et concis, mais c'est dense, plus que ce à quoi je m'attendais. Alors, c'est l'heure des clichés ou des tropes. En gros, tropes, c'est le mot anglais pour cliché, mais je risque de l'utiliser pour varier un peu mon lexique. Qui dit teen movie dit recette magique, un peu comme la musique pop. On met quasiment les mêmes ingrédients à chaque fois pour que ça ait le même rendu. Le goût diffère un peu en fonction du dosage des différents composants, mais généralement, c'est la même marmelade. De tous les clichés qu'on peut retrouver dans ce film, je décide de me concentrer sur celui qui a fait date dans Mean Girls et a contribué à ce qu'il passe à la postérité, la Queen Bee. Même si c'est pas ce film qui a inventé le concept de Queen Bee, ou Reine des Abeilles, le perso de Rachel McAdams étant tellement central au film et obsessionnel, non seulement pour l'héroïne, mais aussi pour le lycée tout entier, que Regina George, elle est devenue iconique. Et encore maintenant, elle apparaît dans les différents tops des meilleurs méchants des teen movies, et son nom est devenu un adjectif pour désigner ce cliché. On aura l'occasion de reparler de la Queen Bee dans de nombreux films, car ce cliché est légion. Mais en gros, c'est la reine des abeilles, la fille la plus populaire du lycée, celle que tout le monde veut être ou côtoyer. Et pour une fois, ce n'est pas une cheerleadeuse, ce qui est assez rare pour être souligné. Regina, elle marque l'histoire car elle coche toutes les cases du bingo de ce trope. C'est l'alpha female et en tant que telle, elle a du charisme. Elle est belle, ambitieuse et déterminée, ce qui l'amène à manipuler. Et elle alimente un très fort culte autour de sa personnalité, basé sur son physique, son copain et le trio infernal dont elle fait partie. Ces trois points étant son équilibre, c'est pour cela que Janice propose de s'y attaquer. Et c'est ce que Katie va faire. Le perso de Regina y fonctionne d'autant mieux qu'elle s'inscrit dans un trio infernal, dont elle est la leaduse, incontestée et incontestable. Faisant partie de ce trio, il y a Gretchen, qui est son bras droit, l'exécutante. Elle est aveuglément obéissante, loyale et dévouée. Elle ne questionne pas les ordres, elle fait le sale boulot, même sans rien avoir en retour, et elle collecte des infos, éléments clés pour pérenniser le règne de terreur de Regina, puisqu'elle sait tout sur tout le monde. Quant à Karen, elle a l'image du mouton naïf et innocent. Pas bien méchante et présentant bien avec son joli minois, elle contribue à rendre le trio plus sympathique, car elle est toujours souriante et contente d'être là. Elle permet aux autres filles d'espérer un jour intégrer les Plastics, puisqu'elle en fait partie. C'est une propagande douce, mais terriblement efficace. Le crush de Mean Girls. Clairement, pour moi, c'est pas le meilleur love interest du game, il y a eu bien mieux. Jonathan Bennett joue Aaron Samuels, le copain ou ex de Regina, mais aussi la cible de Katie, qui tombe folle amoureuse de lui à force d'être assise derrière lui et de lui inspecter la nuque en plein cours de maths, et puis de prendre des cours particuliers avec lui. Non pas que l'acteur joue mal, mais je ne trouve pas que le rôle permette un énorme crush. Il est très passif, on ne sait rien de lui à part qu'il est beau et vite fait on apprend qu'il fait du foot. Mais il n'a pas d'amis identifiés, il ne traîne jamais avec personne et il ne présente pas non plus de traits de caractère spécifiques. Il est clairement un trophée et sert de faire-valoir à Regina pour la légitimer en haut du panier. C'est elle la copine d'Irian Samuels et personne d'autre ne peut rivaliser. Terriblement lisse et sans texture, vu que son arc narratif comporte zéro enjeu, Aaron Samuels, il est un man candy qu'on oublie dès le film terminé. Et c'est quand même peu courant que la dynamique héroïne-intérêt amoureux se fasse à ce point invisibilisée par la dynamique gentille et méchante du film. On va y revenir dans quelques minutes. Chanson. On aurait tendance à penser à Jingle Bell Rocks, puisque c'est la musique de la scène de danse des Mères Noël sexy. Mais moi, si je dois retenir un morceau spécialement attaché à ce film, eh bien c'est Built This Way de Samantha Ronson, oui oui, la sœur de Mark Ronson, qui a une intro à l'ambiance si particulière avec ce riff de guitare électrique assez clair. C'est un morceau qui apparaît à deux reprises dans le film, au moment où elle rencontre le crush et lors de la scène finale où elle l'embrasse. Symboliquement, la boucle est bouclée autour de cette chanson. D'autant plus que quelques années plus tard, Samantha Ronson et Lindsay Lohan, elles sont sorties ensemble. Voilà, je trouve ça drôle. Alors, la scène culte, à mon sens, il y en a deux. La plus connue, c'est la danse gênante au Winter Talent Show, le spectacle de Noël. L'esthétique des mères Noël sexy a marqué, tant et si bien que c'est une scène qui est devenue culte, que l'on reconnaît immédiatement. Et d'ailleurs, Ariana Grande la reprend dans son clip autour des Teen Movies, Thank You Next. Si on doit parler davantage de mise en scène, alors la scène culte est le four-way call, l'appel téléphonique à 4 entre Katie et les Plastics, où le fameux split screen est utilisé, diviser l'écran en 4 pour permettre de faire apparaître chacune des protagonistes au téléphone chez elles. Le timing était tellement millimétré que certains plans pouvaient être très légèrement accélérés si jamais il y avait un peu trop de blanc entre deux répliques, ce qui doit être le cas, il me semble, soyez attentifs et attentifs, il me semble que vous vous en rendrez compte. Cette scène-là, de par sa réalisation, elle met très très bien en lumière les enjeux qu'il y a entre elles. Elles se prennent au téléphone, elles se mettent en attente, elles parlent à quelqu'un d'autre, elles disent du mal dans le dos les unes des autres, elles oublient parfois à qui elles parlent à force de passer d'un appel à un autre, et c'est en ça qu'elle est très réussie. Alors, choisir une seule réplique, c'est dur dans ce film, parce qu'il y en a plusieurs qui sont devenus des mimes de la pop culture. Le
Glen Coco, you go Glen Coco
de Damian, le
So fetch
de Gretchen ou le
On Wednesdays we were pink
de Karen. Mais petite préférence pour le It's October 3rd de Katie. En cours de maths, Aaron il se tourne vers elle pour lui demander la date du jour et elle lui répond
le 3 octobre, il me demandait la date.
On est le 3 octobre.
Ce qui constitue pour elle un massif échange verbal totalement non négligeable. Sur les réseaux sociaux, chaque 3 octobre, telle une fête traditionnelle, tu vois popper un peu partout un gif de cette scène, et ça, qu'est-ce que j'aime. Tenue culte, au-delà de l'uniforme sexy des Mères Noël, encore et toujours, ce qui tombe sous le sens à la première pensée, moi j'aime bien le t-shirt de Regina, sur lequel est écrit « A little bit dramatic ». De manière générale, les tenues des Plastics, elles sont assez fascinantes de par les tons, les matières, les coupes. Tout est différent mais harmonieux entre les personnages pour créer vraiment un ensemble cohérent et un effet de groupe saisissant. D'ailleurs, l'évolution des tenues de Katie, elle est très significative. Katie, elle est random au début avec une queue de cheval, des habits passe-partout aux couleurs ternes. Et au fur et à mesure que la relation entre Katie et les Plastics, elle s'installe et elle s'approfondit, elle se fashionise un peu plus, en se coiffant de manière plus structurée, en portant des fringues plus moulantes, mais en restant dans un style un peu streetwear. C'est quand elle décide de se séparer du bracelet d'Afrique que sa mère lui a offert, et que symboliquement elle fait sauter le dernier rempart avec sa vie d'avant, qu'elle switch complet. Elle se détache les cheveux en les surcoiffant, elle porte du rose, des tenues très girly et des bijoux. Ce rapprochement dangereusement de l'image de Regina. Alors on va commencer par ce qui va pas. Déjà, le poster du film, qui a été fait en 2 minutes sur un bout de table avec zéro effort et zéro Photoshop sûrement. Le fond, c'est un dégradé du rose au violet gris. d'un style très World 98, c'est vraiment pas beau, c'est terne, c'est plat. Katie, elle apparaît au premier plan et les plastiques au second, et c'est tout, ok? Y a pas le time de faire plus, ça ira très bien, de toute façon le film n'a pas marché. Oupsie. Le racisme, encore plus appuyé sur les élèves asiatiques, de par le coach de sport qui présente un fétichisme racial doublé de pédocriminalité. Il aime bien sortir avec des femmes asiatiques, de surcroît des élèves, donc rien ne va. La ségrégation raciale également, du fait que tu ne traînes que avec les personnes de la même couleur de peau que toi, et les personnes non blanches sont uniquement réduites à leur couleur de peau. C'est pas comme si on allait leur filer un caractère non plus. Mais ce problème est malheureusement extrêmement courant dans les teen movies. Jusqu'aux années 2010, on en parlera de nombreuses fois, vous allez voir. Et last but not least, les troubles alimentaires. La grossophobie est totale dans Mean Girls. Le fait que pour faire tomber la reine, il faut la faire grossir, que son corps est uniquement désirable car mince. Pour rappel, c'est un film de 2004, où ce discours était omniprésent dans les esprits et les médias. J'avais 15 ans en 2004, je me souviens avoir lu des dizaines de magazines pour ados ou jeunes adultes qui faisaient l'apologie de la maigreur. Je serais curieuse de voir par quoi la prise de poids serait remplacée si le film sortait maintenant, car je doute qu'un tel ressort scénaristique serait le même dans un film de 2022. Alors, ce qui est à garder, ce qui est intéressant dans Mean Girls, pour moi. Ce film, il parle du female bullying, du harcèlement entre filles. Le film tourne autour des femmes, il n'y a que très peu de persos masculins, le meilleur ami, qui est gay bien entendu, et le crush, qui est totalement isolé socialement. Et de fait, il explore l'amitié mais aussi la compétitivité et de manière générale les relations entre lycéennes. À première vue, l'histoire s'articule autour du duo Katie-Regina. Cette dernière nous est présentée comme l'antagoniste de l'héroïne et le perso le plus important du lycée, mais aussi bientôt de la vie de Katie, qui ne tourne plus qu'autour d'elle dans la flatterie ou la destruction.
Ça devenait obsessionnel. Je passais 80% de mon temps à parler de Regina. Et les 20% qui restaient, je priais pour que quelqu'un aborde le sujet afin de pouvoir en rajouter une couche.
Au lieu d'encourager l'amitié sororale par le soutien et la bienveillance, Regina voit en les autres filles des adversaires, des faire-valoirs ou des subordonnées. Elle s'entoure de personnes loyales et assoit son pouvoir sans se soucier de leurs sentiments, leur imposant des règles arbitraires, cassant du sucre dans leur dos et entretenant un conflit passif perpétuel. Mais le personnage de Katie ne s'en sort pas spécialement mieux. À mesure que Regina perd de sa superbe dans la deuxième moitié du film, Katie devient Regina, en portant des vêtements qui lui ressemblent, en manipulant Gretchen, en mettant de côté Jamie et Janice, en désirant Aaron, son ex, ce qui révèle ainsi l'aspect wannabe de Katie, qui était complètement insoupçonnée au début du film. Elle ne serait pas compte prendre la place de Reine des Abeilles. À ce duel, on peut rajouter un troisième personnage, transformant la droite d'affrontement en triangle de destruction. Car en observant de plus près, Janice, tapis dans l'ombre, elle agit tout aussi mal que Regina et Katie. C'est elle qui veut détruire Regina à la base. Elle convainc très rapidement Katie d'infiltrer les plastiques pour se rapprocher de Regina. Quand on y réfléchit, c'est à cause d'elle que Katie détrône Regina pour prendre sa place. Au final, elle ne fait pas tomber le système, elle le perpétue. Sans faire gaffe, on peut plutôt s'attacher à elle en la prenant pour une rebelle anti-système. Mais elle en fait bien partie de ce système. Elle l'alimente et en souhaitant bouleverser les choses, elle contribue à les rendre encore plus mauvaises. Telle Daenerys dans Game of Thrones. Pour continuer mon parallèle foireux avec Daenerys, justement, son combat tel qu'il est amené au départ, non-violence, civil resistance, et se débarrasser de la tyrannie de la bad girl, n'est pas tant le sens de la justice absolue pour tout le monde, mais davantage une revanche personnelle. On apprend pendant le film qu'elle était amie avec Regina auparavant, mais que celle-ci s'en est éloignée, en croyant que Jenny était une lesbienne. Ben tiens, Regina, homophobe également. Fabuleux. Cette mise à l'écart l'a fait tant souffrir qu'elle ne veut pas laisser Regina impunie. Et puis si elle était amie avec Regina, c'est aussi parce qu'elle se ressemble sur certains aspects. Janice, elle a un plan. Elle sait à quoi s'attaquer. Elle veut faire les choses à sa manière et impose sa stratégie. Et elle perpétue l'oppression en étant persuadée d'être du bon côté. La seule diff entre Regina et Janice, c'est que la première, elle est populaire. Mais l'avantage de Janice en étant seule, de côté, c'est qu'elle subit moins de pression. Regina, elle peut plus facilement être elle-même, s'exprimer sur ce qu'elle aime faire, comme artistiquement par exemple à travers ses peintures. C'est le véritable message du film, réussir à trouver sa place dans cette grande jungle qu'est le collège ou le lycée, en se démarquant du regard des autres, en cherchant à être soi, accepté par toutes et par tous. Et d'ailleurs, dans le mini-épilogue de fin, on voit que chacune a tracé sa route, dans le sens qui lui convient. Regina est devenue sportive et traîne avec d'autres nanas. Karen présente la météo au journal du lycée. Et Gretchen, elle a intégré un nouveau groupe, celui des Cool Asians. Quant à Katie, elle a retrouvé un style vestimentaire qui semble davantage lui correspondre, aux côtés de Damien et Janice. On peut supposer Katie soulagée d'être séparée des Plastics, et les Plastics elles-mêmes plus heureuses dans leur nouvelle vie, plus éloignées de ces personnes qui ne leur convenaient pas. Conclusion, l'amitié, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ne choisissez pas des groupes qui ne vous correspondent pas, dans lesquels vous ne pouvez pas être naturel vous-même. Préférez à cela, non pas forcément les personnes qui vous ressemblent, mais qui vous acceptent tel que vous êtes. Mean Girls a créé un tel retentissement qu'il y a eu une suite qui est sortie en 2011, un téléfilm direct tout DVD. Mais il y a aussi un jeu vidéo de type Puzzle Game en 2009, un jeu mobile type Candy Crush il me semble. Et comme évoqué plus tôt, Ariana Grande elle a fait un sacré clin d'œil au film dans son clip Thank You Next sorti en 2018. Et puis Consécration, la comédie musicale adaptée du film a vu le jour à Broadway de 2018 à 2020 et le compositeur n'est autre que le mari de Tina Fey, Jeff Richmond. Apparemment, Tina Fey bosse actuellement sur une adaptation cinéma de la comédie musicale. Oui, ça va loin, mais peut-être que cela permettra de faire une version revisitée et actualisée avec d'autres leviers possibles comme les dynamiques des réseaux sociaux, par exemple. Voilà, c'était Mean Girls et le regard que je peux porter dessus de par mon ressenti et mes recherches. Toutes les sources qui m'ont nourri dans ce cheminement de pensée, elles sont à retrouver dans le lien du podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles réjouissances adolescentes.